BPM, élections régionales 2021.
Bonsoir à tous et bienvenue sur BPM. Le second tour des élections régionales aura lieu dimanche. À cette occasion, nous vous proposons ce soir une émission spéciale. Les candidats pour le second tour en Ile-de-France répondent à nos questions. Avant de commencer les interviews, on vous rappelle les résultats du premier tour en Ile-de-France. La liste Ile-de-France rassemblée avec Valérie Pécresse est arrivée en tête avec 36,2% des suffrages. En deuxième position, avec un score de 13,1%, la liste Le Choix de la Sécurité, liste soutenue par le Rassemblement National menée par Jordan Bardella. Troisième, la liste de Julien Bayou, l'écologie évidemment, a récolté 13% des voix. Et quatrième liste présente au second tour, Envie d'Île-de-France menée par Laurent Saint-Martin avec 11,8% des suffrages. Nous commençons justement nos interviews avec Bruno Millienne, membre de la liste Envie d'Île-de-France menée par Laurent Saint-Martin, soutenu par La République En Marche. Bruno Millienne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député de la 9e circonscription des Yvelines. À l'Assemblée nationale, vous siégez à la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Vous êtes vice-président du groupe Modem à l'Assemblée et vous êtes par ailleurs cadre supérieur dans l'audiovisuel. On commence par aborder les résultats de ce premier tour. Laurent Saint-Martin est arrivé quatrième avec 11,8% des voix. Qu'est-ce que vous inspire ce résultat?
On est forcément déçus. On est déçus d'abord par le résultat, ensuite par l'abstention. La vraie question, c'est l'abstention. Je crois que dans les Yvelines, on arrive à 70% d'abstention. Sur une moyenne nationale, 66. Dans les Yvelines, 70. Comment vous dire ? Il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord, je pense que les élections régionales et les élections départementales parlent de moins en moins aux gens, c'est-à-dire qu'on ne parle pas suffisamment des compétences des uns et des autres, de l'importance de ces deux collectivités pour le quotidien des gens. Donc il va falloir qu'on reprenne notre bâton de maréchal et qu'on aille porter la bonne parole sur le territoire. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, on est au sortir, moi vous ne me l'enlèverez pas de l'idée, hein. On est au sortir d'une crise sanitaire qui a duré 15 mois, où on a été quand même très contraints dans nos déplacements, dans nos libertés. Et je pense que les gens en ce moment ont vraiment autre chose à faire que d'aller voter. Ils sont bien mieux en barbecue avec leurs potes chez eux ou en week-end. Et ça, je pense que ça a joué. D'ailleurs, vous noterez que le Modem a été le seul groupe à l'Assemblée nationale à voter contre la tenue de ces élections au mois de juin. On avait nous demandé un report fin septembre, début octobre. Alors, je ne veux pas dire par là qu'on avait raison. Je ne veux pas dire par là non plus que ça aurait résolu complètement les problèmes d'abstention. Mais je pense que l'abstention aurait été moins forte. Et donc, ça nous interroge et ça nous pose la question du discours qu'on tient aux gens. Je pense qu'il va falloir à un moment ou un autre qu'on se rapproche encore plus des citoyens, qu'on leur explique la réalité de fonctionnement de certaines choses. Et il y aurait beaucoup à dire à la fois sur le département et sur la région notamment.
Et pour revenir rapidement sur le score de Laurent Saint-Martin, donc vous pensez que l'abstention a une part non négligeable sur ce résultat?
Oui, parce qu'on voit que si on analyse un petit peu notre électorat, notre socle de base est plus ou moins loin, et puis il y a eu une dispersion quand même de notre électorat, un petit peu qui est parti chez Valérie Pécresse, et puis d'autres qui ne sont pas venus. Donc il y a un problème, il faut qu'on revoie, nous les politiques, à la fois la façon de communiquer, mais surtout la façon dont on rend compte de l'action publique. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Parce que quand vous regardez les sondages, en fait, 39% des gens vous disent que ils n'ont pas été votés, parce que de toute façon, voter ou pas, ça ne changera rien à leur quotidien. Il faut qu'on réponde à cette question.
Pour le second tour, il y a donc eu une fusion des listes de gauche. Laurent Saint-Martin a, lui, décidé de se maintenir au second tour. Pour quelle raison?
La première raison, c'est qu'on nous a fermé la porte au nez. C'est-à-dire que Valérie Pécresse a barré le moindre espoir de discussion ou de quoi que ce soit. Elle n'en veut pas. Elle n'en veut pas et après elle nous accuse de risquer de la faire perdre. Je peux vous assurer que s'il y avait un risque qu'elle perde, elle serait venue ventre à terre pour qu'on fasse une alliance. Donc il faut qu'elle arrête de se foutre de la gueule des gens, ça sera la première chose. Et puis la deuxième chose, on se maintient. Pourquoi? Parce que sinon vous allez vous retrouver avec une assemblée régionale où il y a d'un côté la majorité de Valérie Pécresse, qui est finalement la majorité sortante, avec la même opposition qui existe depuis, même depuis Huchon. Hein. On va retrouver une opposition qui est quand même un attelage bizarre entre la France insoumise, les écologistes et le Parti socialiste. Enfin, vous voyez un petit peu l'attelage entre des républicains que je considère comme étant des vrais républicains que sont les socialistes et des anti-républicains que sont la France insoumise. des écologistes punitifs, adeptes de la décroissance au milieu de tout ça. Et l'autre opposition, ça sera le Rassemblement National. Ça n'a pas de sens. Autant qu'on essaye de faire rentrer au moins quelques élus qui sont en capacité d'être une opposition constructive et qu'on ne se retrouve pas comme on s'est retrouvé sous Jean-Paul Huchon avec les socialistes, comme on s'est retrouvé avec Valérie Pécresse, avec des exécutifs qui gouvernent pour leur camp et qui oublient l'autre camp pendant 6 ans. Nous, si les élus qu'on va porter au Conseil régional seront des élus qui seront capables de dire oui à Valérie Pécresse, ça va dans le bon sens, et non à Valérie Pécresse, ça ne va pas dans le bon sens.
On va aborder à présent la candidature de Laurent Saint-Martin sur le fond. On va revenir sur les thèmes principaux. D'abord, les transports. Un sujet qu'on n'a pas abordé lors de votre interview du premier tour, c'est la question de la gratuité des transports en commun. Ça, c'est une mesure souhaitée par Julien Bayou. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de réaliste ?
Enfin, c'est une mesure souhaitée par Julien Bayou du deuxième tour. Hein.
Oui.
Parce que Julien Bayou du premier tour, il n'en voulait pas de la gratuité. Et pourquoi il n'en veut pas de la gratuité ? Ben, parce qu'il a siégé bien avant Valérie Pécresse, puisque ça fait 11 ans qu'il est conseiller régional, il a siégé dans la majorité de Jean-Paul Huchon, et il sait très bien que la gratuité des transports, c'est juste un leurre. C'est une mesure démagogique qu'on ne sait pas financer à l'heure où Île-de-France Mobilité a besoin de tout son budget pour pouvoir moderniser les infrastructures en Île-de-France. Et si vous mettez de la gratuité, forcément, à un moment ou à un autre, il y a quelqu'un qui le paye. Alors vous avez vu, André Pulvar, dans un temps, elle avait dit « on va faire une taxe écologique ». Et puis quand elle a vu le tollé que ça a provoqué, elle dit « bah non, on va se récupérer sur la billetterie ». En fait, sa gratuité, elle n'existe pas, pas plus que celle de Julien Bayou au deuxième tour. C'est forcément nos impôts qui la paieront.
Toujours concernant les transports, de manière plus générale, et on va englober les circulations douces, Laurent Saint-Martin a dit vouloir que la compétence voirie soit davantage attribuée à la région. Alors si c'était le cas, qu'est-ce qu'il faudrait modifier concernant la voirie ?
Alors, première chose, il faut modifier la loi, mais ça viendra avec la loi 4D que va présenter Jacqueline Gourault, qui va redonner des nouvelles compétences à la région. La région Île-de-France a ce site particulier qu'elle est autorité organisatrice des mobilités pour l'ensemble de l'Île-de-France. Et donc, ça donnera la possibilité, effectivement, à la région Île-de-France, d'ailleurs Valérie Pécresse le souhaite, de s'occuper, effectivement, des mobilités douces, donc d'avoir la compétence voirie et de pouvoir imposer, selon un schéma, si on prend le vélo, par exemple, selon un schéma régional des pistes cyclables, d'avoir une continuité des pistes cyclables partout en Île-de-France, ou encore de faire le fameux RER vélo dont elle parle, qui est finalement un RER qui contourne Paris sur la petite couronne et qui permettra aux gens d'accéder effectivement aux gares plus facilement.
Et concernant les transports routiers, vous souhaitez rendre la voiture électrique accessible à tous, comment on fait ?
Bah la voiture électrique accessible à tous, il y a deux pistes. Il y a une piste qui est une piste de subvention à l'achat, en plus des subventions données par l'État. Et là, Laurent Saint-Martin propose effectivement de financer jusqu'au tiers de la valeur la voiture que vous voulez acheter, en plus effectivement des subventions que vous pouvez avoir pour l'État. Et il y a la deuxième chose qu'on voulait pousser aussi, mais qui n'est pas inscrite, mais c'est en filigrane dans le programme, c'était essayer d'installer des filières de rétrofitage de véhicules en Île-de-France, de manière à ce que ceux qui, même avec ces aides-là, ne peuvent quand même pas accéder à un véhicule propre, puissent transformer leur véhicule, on va dire fossile, à moteur fossile, en véhicule propre, à moindre coût.
On passe maintenant au lycée. Laurent Saint-Martin souhaite une police régionale près des lycées. Alors comment est gérée cette police régionale ?
Ben, la police régionale près des lycées, c'est pas une police au sens où on l'entend avec des gens, alors il y aura peut-être un uniforme, mais avec des gens armés, prêt à dégainer à la moindre risque à l'intérieur d'un établissement ou à l'extérieur d'un établissement. C'est plus ce qui existait dans le temps et qui n'existe plus aujourd'hui. Vous savez, ces médiateurs, ces gens qui étaient là, effectivement, pour calmer le jeu. Et je pense qu'il faut réintroduire ça parce que la non-présence d'adultes médiateurs à l'intérieur des lycées comme à l'extérieur, bah, c'est compliqué à gérer pour l'éducation nationale et pour les personnels de l'éducation nationale. Ils n'ont pas que ça à faire, ils donnent des cours. Donc il faut qu'on arrive à les aider à l'intérieur des lycées avec ce genre d'emploi.
Et concernant l'enseignement, la liste Envie d'Île-de-France veut introduire la vie professionnelle de façon plus significative dans les lycées et les établissements du secondaire. Et une des principales propositions, c'est la mise en place de 200 000 mentors pour les lycéens. On rappelle quel serait leur rôle ?
Ouais, le mentorat, c'est très important. On en a eu un exemple d'un jeune là, qui a été mentoré d'ailleurs et qui est devenu mentor lors de la réunion publique de Laurent Saint-Martin au parc floral de Vincennes. Le mentorat, c'est très important parce que, alors, depuis la nuit des temps, hein, moi je me rappelle aussi mon passage au lycée, il y a des gens qui savaient très bien à 15, 16, 17 ans, 14 ans, ce qu'ils allaient faire plus tard. ils avaient ça, cette vocation-là. Puis il y en a la grande majorité, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et le fait d'avoir un mentor, le fait de faire rentrer les entreprises dans les lycées, ça peut provoquer un déclic, effectivement, chez certains élèves. Le déclic, ça ne suffit pas. Après, il faut savoir comment on fait pour aller vers, vers cette profession que tout d'un coup, on a choisie. Et les mentors sont là pour ça. Et ça permet, effectivement, à la sortie du lycée, de mieux orienter les étudiants, de continuer à les suivre, même dans la prolongation de leurs études, vers un métier, qu'ils veulent faire.
On poursuit avec le développement économique. On rappelle la mesure forte de votre programme, c'est le lancement d'un fonds d'épargne populaire. Alors à quoi servirait-il ?
Ça, c'est une mesure très importante qui commence à exister dans d'autres régions, qui sont en proposition dans d'autres régions. C'est de dire, voilà, les Français ont beaucoup épargné pendant la crise de la Covid. Plutôt que de mettre votre argent sur un livret A, vous nous donnez 1 euro, la région abonde d'un euro, et on va donner ça aux entreprises pour soutenir les TPE et les PME. Parce que le développement économique en Île-de-France, ce n'est pas simplement que les grandes entreprises, d'accord ? C'est aussi les TPE et les PME, et notamment les TPE et les PME de nos territoires les plus reculés, la deuxième couronne. Et là, si on regarde le bilan de Valérie Pécresse, il n'est pas bon. Sur 100% d'investissement, il y en a eu 70 sur Paris et petite couronne, et que 30 dans les territoires reculés.
Et il y aurait un retour sur investissement.
Absolument, il y a un retour sur investissement après. La région abonde et retour sur investissement, comme un plan d'épargne, quoi.
Dernier sujet, le tourisme. Comment valoriser un tourisme plus local ? C'est une volonté de Laurent Saint-Martin, là aussi.
Mais là, c'est pareil, il faut cartographier, un petit peu tout ce qu'il y a d'assez remarquable sur nos territoires. Ça n'a jamais été fait. On se contente de Vaux-le-Vicomte, Fontainebleau, Versailles, Disney, Astérix, Paris avec ses monuments. Et puis finalement, on ne va pas chercher les pépites qu'on a sur nos territoires. Il faut les cartographier, les répertorier, inviter les gens à aller les visiter. Travailler, on l'a parlé tout à l'heure de circulation douce, travailler sur les circulations douces, faire peut-être aussi du tourisme un peu plus vert et augmenter notre offre, notamment d'hébergement, du gîte jusqu'à l'hôtel de luxe, hein, y a pas de problème, mais dans ces catégories intermédiaires et même sur les gîtes, on est très en retard par rapport à beaucoup de régions.
Il nous reste 2 minutes, Bruno Millienne, pour une dernière question. Comment convaincre les électeurs de voter dimanche prochain et tant qu'à faire, à voter pour Laurent Saint-Martin.
Alors, tant qu'à faire, à voter pour Laurent Saint-Martin, je vous dirais pourquoi Laurent Saint-Martin, parce que c'est effectivement le seul candidat de tous ceux présents au deuxième tour qui n'est pas dogmatique. Il n'ira pas systématiquement contre l'exécutif en place, quel qu'il soit. Il adoptera des mesures qui vont dans le bon sens, qui vont dans le sens de l'intérêt général. Il se battra contre celles qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt général. Donc ça, c'est déjà un premier point. Donc c'est déjà installé à la région, des élus qui sont, on dit progressistes, je sais pas si c'est le bon terme, mais en capacité de travailler avec tout le monde. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, rappelez-vous quand même que dans son programme, Laurent Saint-Martin a été le seul à proposer, s'il avait été élu président, de gouverner avec l'opposition. Parce qu'on peut se battre pour gagner un exécutif, c'est la démocratie, c'est normal. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais une fois qu'on a gagné, qu'est-ce qui nous empêche de gouverner avec les autres ? Rien. Et pour l'instant, ça n'a jamais été fait.
Bruno Millienne, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
On marque une pause et on revient pour la suite de cette émission. Prochaine invitée, Ghislaine Senet, candidate tête de liste dans les Yvelines pour la liste Le Rassemblement pour l'écologie et la solidarité portée par Julien Bayou. Cette émission spéciale sera disponible juste après la fin de sa diffusion sur notre site internet bpmlaradio.com, rubrique podcast. Excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.
BPM, élection régionale 2021.
Bonsoir à tous et bienvenue sur BPM. Si vous venez de nous rejoindre, le second tour des élections régionales aura lieu dimanche. À cette occasion, nous vous proposons ce soir une émission spéciale. Les candidats pour le second tour en Île-de-France répondent à nos questions. Nous poursuivons avec Ghislaine Senet qui représente Julien Bayou, candidat de la nouvelle liste Le Rassemblement pour l'écologie et la solidarité. Ghislaine Senet, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 52 ans, vous êtes conseillère régionale et présidente du groupe AES. Vous êtes également vice-présidente environnement et aménagement durable au parc naturel régional du Vexin français. Et vous avez été maire d'Évêquemont de 2008 à 2020. On commence par les résultats de ce premier tour. Julien Bayou est arrivé en troisième position avec 13% des voix. Que vous inspire ce résultat ?
Bah écoutez, ça démontre que on gagne petit à petit des voix supplémentaires. De plus en plus de nos concitoyens se sentent concernés par l'urgence climatique. On l'a vu encore hein, avec les derniers phénomènes climatiques. On le voit avec le rapport du GIEC. La question climatique intéresse de plus en plus nos concitoyens et pour cela, je m'en réjouis parce que nous devons mettre en place particulièrement à tous les niveaux hein, régionaux, nationaux, mais il faut absolument que pour l'Île-de-France, nous puissions mettre en place très rapidement des politiques publiques en faveur du climat.
L'autre fait notable de ce premier tour, c'est le fort taux d'abstention, 69% en Île-de-France. Comment vous expliquez ce phénomène ?
Ben, je crois que aujourd'hui, en fait, les Français ont perdu confiance en la politique. Je pense que beaucoup ne pensaient que les dés étaient jetés. Il y avait des sondages hein, qui annonçaient Valérie Pécresse gagnante. Donc beaucoup se sont dit que c'était même pas la peine d'y aller. Et puis on a été quand même dans un contexte un petit peu compliqué hein, puisque c'était une crise sanitaire Covid qui a fait que la campagne n'a pas pu être menée comme à son habitude, qu'il y a eu une communication assez tardive et puis surtout qu'il y a eu même du matériel de vote qui n'est pas arrivé chez les gens. Donc je pense que tout ça a fait qu'il y a eu effectivement encore une augmentation très forte du taux d'abstention.
Pour le second tour, donc, la fusion des listes de gauche autour de Julien Bayou a été rapidement annoncée. Vous pensez qu'il y a une réelle opportunité là pour votre liste de gagner ces élections ?
Ah, je crois vraiment qu'il y a un chemin. J'en suis convaincue. Valérie Pécresse n'a pas de réserve de voix, alors que nous en avons. Le fait que nous nous rapprochons les trois listes crée une dynamique. Nous avons un électorat, hein, l'électorat jeune, dont on sait qu'il ne s'est pas déplacé. Donc nous comptons les mobiliser. Et donc nous sommes effectivement très convaincus du fait que nous puissions vraiment remporter cette région. Il faut vraiment que les électeurs et électrices qui nous écoutent savent que s'ils vont voter dimanche et s'ils nous donnent leur voix, nous avons la capacité de pouvoir changer les politiques au niveau régional. C'est totalement indispensable. J'appelle vraiment tout le monde à aller voter. Avec votre bulletin de vote, votre voix compte et nous pourrons changer de modèle de société et apporter des réponses aux maux que nous avons, tout particulièrement en Île-de-France.
On s'intéresse à présent à cette nouvelle candidature sur le fond. On commence par les transports en commun. Concernant la tarification, la nouvelle mesure après ce premier tour, suite à la fusion des listes de gauche, c'est donc la gratuité des transports en commun. Quelles seront les conditions pour bénéficier de cette gratuité ?
Alors nous avons travaillé ensemble hein, puisque en fait on n'avait pas tout à fait les mêmes positions sur la question de la gratuité des transports. Ce qui a été convenu, c'est la priorité est vraiment au transport du quotidien, à la modernisation des RER, au développement de l'offre, à l'accessibilité, à la sûreté du transport au quotidien. Et donc nous avons travaillé ensemble à ce que la gratuité des transports puisse être donnée aux bénéficiaires des minima sociaux pour les mois de 18 et les moins de 18 ans. Les moins de 18 ans, les bénéficiaires des minima sociaux. Et puis nous avons aussi atteint, en tout cas, nous souhaitons amener la gratuité jusqu'aux moins de 25 ans pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et toutes les personnes de moins de 25 ans donc qui sont en parcours d'insertion.
On poursuit avec l'enseignement et les lycées. La jeunesse est au cœur du programme de cette liste avec un plan de 6 milliards d'euros consacré aux lycées. Qu'est-ce qu'apportera cet investissement ?
Bah c'est un investissement qui est aujourd'hui nécessaire. On a vu encore récemment hein, un plafond à Alfortville d'un lycée s'écrouler. En fait, on a aujourd'hui des lycées qui sont vétustes. Nous avons effectivement absolument besoin à ce que notre jeunesse puisse étudier dans des conditions convenables avec du bon matériel. Et puis surtout, il manque encore des places. Nous avons des lycées qui sont surchargés. On l'a vu de surcroît à quel point c'est problématique lorsque nous subissons subissons des crises sanitaires comme celle du Covid. Donc ces 6 milliards serviront et à rénover les lycées et à créer 30 000 nouvelles places supplémentaires.
On passe à l'écologie à présent. C'est évidemment un thème fort de votre liste, et ce, avant le premier tour. Donc, on trouve évidemment l'une des mesures phares de Julien Bayou, qui propose un plan de relance de 3 milliards d'euros pour le climat et l'emploi local, sous le nom de Green New Deal. Et puis, côté écologie également, le programme pour le second tour porte également le projet d'une nouvelle stratégie climat pour les filières aéroportuaires et automobiles, ainsi que la protection des terres agricoles. Quels sont les termes de cette stratégie ?
Les termes, définitivement, en fait, le Green New Deal, on a eu déjà l'occasion d'en discuter. C'est vraiment pouvoir accompagner les entreprises dans un réel plan de relance qui permettra réellement de pouvoir adapter en fait les activités aux contraintes qui sont aujourd'hui imposées par le climat. Mais il y a vraiment une volonté de pouvoir accompagner cette transition. On sait que les emplois dans ce qu'on appelle les métiers verts, sont locaux, on ne peut pas les délocaliser et ils sont en tout cas très 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 créateurs d'emplois. La protection des terres agricoles, c'est indispensable si on veut travailler sur notre autonomie alimentaire, et nous voyons que plus on fait de l'étalement urbain, plus on imperméabilise et plus nous sommes confrontés à des phénomènes climatiques. Donc on a vraiment ce devolet sur le travailler sur la question alimentaire et la question de la protection du climat. Et enfin, sur les filières aéroportuaires et automobiles, ça c'est vraiment, je trouve, très intéressant, parce que cette proposition est vraiment issue du débat que nous avons pu avoir le soir du premier tour. L'idée est vraiment de pouvoir mettre en place une stratégie climat, c'est-à-dire faire un diagnostic, rencontrer les acteurs et voir comment nous pouvons accompagner ces filières qui sont aujourd'hui en difficulté, pour pouvoir réellement faire en sorte que nous puissions préparer cette transition et que nous ne laissions pas sur le carreau des salariés comme c'est le cas aujourd'hui. On sait que notamment Renault Flin va encore licencier malgré toutes les aides qu'ils ont eues. Ils le font à choisir le roi. Donc il y a vraiment cette volonté de pouvoir accompagner les filières entières dans la reconversion.
On continue avec les compétences partagées avec les autres collectivités et l'État, notamment la santé. Comment lutter contre les déserts médicaux ? Une proposition chère à Clémentine Autain, qui a rejoint donc cette nouvelle liste, c'est l'installation de centres et de maisons de santé et le financement de la formation de nouveaux personnels soignants. Dites-nous en plus sur cet aspect du programme.
L'installation des centres de santé, nous l'avons tous défendu, où nous avons besoin. Alors les centres de santé, ils vont s'installer dans les déserts médicaux, dans les villes où il n'y a pas d'offre de santé, et ça permet à ce que les médecins qui sont salariés puissent répondre finalement aux besoins de la population. On a intégré les maisons de santé, mais avec cette fois-ci des médecins libéraux, mais bien évidemment pour nous ce sera des médecins qui seront en secteur 1, mais ça permet de pouvoir offrir en fait une multitude de réponses en fait aux besoins de la population. Quant au financement de la formation des nouveaux personnels soignants, c'est important de pouvoir accompagner toutes les personnes qui souhaitent effectivement s'orienter vers ce type de métier, jusqu'à aller à payer à salarier pour qu'ils puissent suivre cette formation, et donc apporter vraiment une aide à ce que cette formation puisse être rémunéré. C'est comme cela que nous arriverons à attirer de nouveaux personnels soignants.
Dernier thème, en quoi consistera le plan d'urgence pour le secteur culturel et sportif souhaité par la liste Le Rassemblement pour l'écologie et la solidarité ?
Il va falloir que nous fassions un réel point avec les différents acteurs. Donc sur la partie culturelle, on va bien évidemment soutenir le spectacle vivant, la partie sportive. On veut vraiment aider les clubs sportifs, hein, pas les fédérations, mais bien les clubs sportifs. Nous souhaitons pouvoir faire en sorte à ce que la cotisation puisse être de 10 euros, et donc accessible au plus grand nombre, parce qu'il faut absolument redynamiser, hein, ces deux secteurs qui malheureusement avec la crise ont vraiment souffert ces derniers mois, et il est important pour l'émancipation et puis pour le bien-être de chacun de pouvoir profiter d'une offre culturelle et sportive, et ce dans tous les territoires, pas forcément à Paris en zone dense, mais également dans nos territoires de grande couronne qui souvent ont moins d'offres que ce soit sportive ou culturelle.
Je reviens sur la forme. Voilà, il y a eu un rassemblement de trois listes avec celle de Julien Bayou, celle d'Audrey Pulvar et celle de Clémentine Autain. Il y a eu des discussions pour des modifications pour que le programme convienne aux trois parties. Même si vous n'étiez pas, peut-être pas forcément au cœur des discussions, mais voilà, comment les choses ont-elles pu avancer pour trouver le meilleur compromis entre les trois listes?
Alors, le meilleur compromis, ça a été plutôt que de travailler sur les points divergents. Nous les connaissons, hein, nous les avons partagés, mais nous avons surtout souhaité mettre en commun ce qui nous rassemblait. Et nous avons, mais on l'a vu, hein, lors des débats télévisés, nous avons beaucoup de points sur lesquels nous portons en fait un projet qui réponde et qui soit en opposition avec ce que mène aujourd'hui la droite locale, portée par Valérie Pécresse. Je crois que il y a une réelle volonté de faire bouger les choses. C'est répondre aussi à une demande. On nous l'a suffisamment reproché, mais je rappelle que nous sommes sur un scrutin proportionnel. Il était normal que chacun puisse défendre son propre projet. On a chacun en fait des nuances qui sont différentes. C'est l'écologie et la justice sociale qui l'a remporté sur ce scrutin, et finalement nous avons pu compléter avec le projet de Clémentine Autain, le projet d'Audrey Pulvar, ce beau programme, et j'invite vraiment tout le monde à venir voter dimanche. Vous aurez vu les attaques totalement incroyables que nous subissons, la gauche, l'extrême gauche serait encore beaucoup plus dangereuse et plus néfaste que l'extrême droite, ce qui semble complètement hors des valeurs républicaines, et donc je crois qu'il faut raison garder, et il faut absolument aujourd'hui que nous apaisons le débat politique et nous puissions chacun mener le projet de société que nous défendons, et je compte vraiment pour tout le monde, parce que voilà, chaque voix va compter et nous pouvons vraiment changer de modèle.
Ghislaine Senet, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Je vous en prie, merci à vous.
On marque une pause et on revient pour la suite de cette émission. Prochain invité, Laurent Morin, candidat tête de liste dans les Yvelines pour la liste Le Choix de la Sécurité, liste soutenue par le Rassemblement National, menée par Jordan Bardella. Cette émission spéciale sera disponible juste après la fin de sa diffusion sur notre site internet bpmlaradio.com, rubrique podcast. Excellente fin de journée à l'écoute des programmes de BPM.
BPM, élection régionale 2021.
Bonsoir à tous et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Le second tour des élections régionales aura lieu dimanche. À cette occasion, nous vous proposons ce soir une émission spéciale. Les candidats pour le second tour des élections régionales en Île-de-France répondent à nos questions. Nous poursuivons avec Laurent Morin qui représente Jordan Bardella, le candidat tête de liste Le Choix de la Sécurité, liste qui est soutenue par le Rassemblement National. Laurent Morin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes délégué départemental du Rassemblement National dans les Yvelines et vous êtes conseiller municipal d'opposition à Mantes-la-Ville. Vous avez été premier adjoint de Mantes-la-Ville de 2014 à 2020. On commence, si vous le voulez bien, par parler des résultats du premier tour. Jordan Bardella est arrivé deuxième avec 13,14% des voix. Est-ce que c'est une déception pour vous, ce résultat ?
Disons que ce résultat est inférieur à ce que les sondages pouvaient donner, mais on a vu que les sondages s'étaient grandement trompés pour l'ensemble des partis, hein, et sur toutes les régions. Donc je trouve qu'on résiste plutôt bien finalement en Île-de-France par rapport à d'autres régions où nous subissons peut-être un peu plus le phénomène de l'abstention. Donc disons que nous sommes autour de 14%, alors que nous étions en 2015 à 18%, les données par les sondages pour cette élection entre 17 et 20%. Donc on n'est pas si loin que cela des résultats escomptés. Mais il est évident, et nous allons, je pense, en parler, de l'abstention, il est évident que pour le second tour, il faut que notre électorat se mobilise, il faut un sursaut démocratique, parce que nous avons été plus impactés, je crois, que les autres candidats par cette abstention. Hein. Au niveau national, on a une abstention qui tourne autour de 65%, je crois, pour l'ensemble des électeurs. Mais nous, un sondage IFOP nous indique que près de 73% de notre électorat ne s'est pas déplacé, ce qui est absolument énorme. Et dans ces conditions-là, bien entendu, il est très difficile de performer.
Alors justement, vous avez évoqué l'abstention qui est de... Le taux est de 69% en Île-de-France. Comment vous l'expliquez ?
Je pense qu'il y a différentes possibilités d'expliquer cette abstention, même s'il est toujours très difficile d'être dans l'esprit des électeurs. Mais je pense que le gouvernement, la majorité présidentielle, a une responsabilité sur cette catastrophe démocratique. Hein, depuis dimanche soir, je pense que chaque démocrate est en deuil. Hein, une démocratie sans électeurs n'est plus vraiment une démocratie. Le gouvernement en porte une très lourde part de responsabilité. D'abord dans le temps qu'il a mis pour décider si oui ou non cette élection aurait lieu, ensuite dans les tergiversations gouvernementales quant à l'organisation même de la campagne. Par ailleurs, il n'y a pas eu de communication médiatique gouvernementale, et toujours pas d'ailleurs à ce jour concernant cette élection. Il y a eu également des professions de foi par dizaines de milliers, par centaines de milliers qui ne sont pas arrivées aux électeurs, et cela fait suite à la privatisation de ce service qui était dédié à la poste auparavant et qui est passé au privé. Donc voilà, il y a une série d'explications. Il y a également la crise sanitaire. Hein. Pendant un an et demi, la société a été complètement dépolitisée. Hein. On a parlé exclusivement de Covid. Les enjeux politiques sont passés au second plan, hein, et les enjeux sanitaires se sont imposés sur les enjeux politiques. Et le déconfinement qui a eu lieu juste avant les élections a bien entendu tenté les électeurs d'en profiter, hein, ce qui peut se comprendre, hein, profiter de cette liberté retrouvée, mais ça s'est fait au détriment malheureusement du processus électoral, et du coup la sincérité des résultats s'en retrouve grandement entachée.
On en vient maintenant à votre programme sur le fond. On débute avec le thème des transports. Comment garantir des transports sûrs, propres et à l'heure ?
C'est toute la question de la qualité des transports, effectivement. Il y a les enjeux de sécurité. Hein. La majeure partie des incivilités, des agressions, des vols se produisent dans les transports. Donc il faut bien sûr renforcer la sécurité. C'était tout l'axe stratégique de Jordan Bardella. Il propose, et nous proposons donc, de financer deux agents de sécurité dans toute les gares RER de la région. Donc voilà pour le thème de la sécurité, et plus globalement sur la qualité des transports, le fait qu'ils arrivent à l'heure, qu'on puisse voyager dans de bonnes conditions. Là, je pense qu'il faut tout simplement mettre le paquet sur la rénovation de l'existant avant d'envisager des projets comme ceux que peuvent envisager Valérie Pécresse, qui sont des projets phénoménaux, certes, mais qui ne répondent pas, je pense, à la préoccupation des franciliens et des usagers des transports en commun. D'abord, rénover l'existant, mettre le paquet sur la rénovation de l'existant, et ensuite financer des projets peut-être d'envergure. Mais je pense que c'est comme ça qu'on améliorera les conditions de voyage pour les franciliens.
Et sur le thème des transports routiers, vous êtes opposé à l'écotaxe régionale à destination des poids lourds. Pour quelles raisons ?
Écoutez, les écologistes sont toujours dans une vision punitive malheureusement, de ce sujet, qui est un sujet important, hein, l'environnement. Et effectivement, cela passe pour eux par des taxes et encore des taxes. Et dans ces conditions-là, c'est la vie économique qui est sacrifiée. Elle n'en a véritablement pas besoin, puisque nous sortons d'une crise sanitaire qui est doublée d'une crise sociale et économique. Et le fait de rajouter sans cesse des normes, des taxes, des impôts à nos entreprises, à nos TPE, PME, qui n'en ont vraiment pas besoin, je pense que ça n'est pas la solution. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous opposons à cette écotaxe qui touchera beaucoup aussi le transport routier. Et donc je pense que sur le thème de l'écologie, il y a d'autres décisions certainement à prendre, mais plus ce genre de décisions. Je rappelle que les charges en France sont parmi les plus imposantes au niveau mondial, hein, les charges et les impôts. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas en rajouter. Au contraire, il faudrait pouvoir trouver des économies qui permettraient de soulager notre société d'un point de vue économique, en tout cas les entreprises.
On passe maintenant à l'enseignement et notamment au lycée. On revient sur la sécurité, hein, qui est un des grands thèmes de votre campagne. Pensez-vous que la sécurité peut être améliorée aux abords et dans les lycées? Et si oui, de quelle manière?
Bah, écoutez, oui, effectivement, les lycées ne sont pas exempts des maux de notre société. On parlait tout à l'heure de l'insécurité dans les transports, mais on s'est rendu compte ces derniers mois que l'insécurité touchait aussi les collèges et les lycées. On a vu un certain nombre de rixes se produire, des rixes parfois mortels avec l'usage amplifié de d'armes blanches notamment. Donc pour lutter contre cela, je pense qu'il faut accélérer la mise en place de vidéosurveillance aux abords des lycées et peut-être même à l'intérieur des lycées, bien sûr en collaboration avec les chefs d'établissement, l'éducation nationale, les parents d'élèves et tous les acteurs locaux, et puis effectivement avoir également une approche sur l'éducation, parce que malheureusement on se rend compte que nos jeunes sont de plus en plus voués à être soumis à être une violence endémique sur l'ensemble du territoire. Et il y a un certain nombre de raisons sans doute à cela, mais je pense qu'il faut allier à la fois la répression de ceux qui commettent ces actes-là et une prévention et une éducation vis-à-vis de notre jeunesse qui ne peut pas prendre la voie de la violence comme ça de manière généralisée. C'est extrêmement préoccupant pour tout le monde, pour les parents, pour les enseignants, pour les jeunes eux-mêmes. Donc voilà, l'éducation, la vidéosurveillance et la répression contre ceux qui sont les auteurs de ces actes ultra-violents et qui ensauvagent notre société.
On poursuit avec l'emploi. Comment le Rassemblement national pourrait-il soutenir l'emploi local?
Déjà, en ne soutenant pas tous les partis qui votent systématiquement des traités de libre-échange avec le monde entier, parce que lorsque ces élus, donc les élus de Valérie Pécresse, les élus de Julien Bayou, les élus de Laurent Saint-Martin, les élus d'Audrey Pulvar et les élus de Clémentine Autain votent, alors parfois pas tous les traités, mais la plus grande majorité vote les traités de libre-échange, évidemment ça ne favorise pas l'économie locale et notre économie nationale. Donc nous, notre concept sur ces sujets-là, c'est le localisme, c'est-à-dire favoriser donc tout ce qui est circuit court, relocaliser notre industrie, nos entreprises, soutenir également les milieux ruraux, nos agriculteurs, pour que l'emploi soit à proximité non seulement de la production, mais également de la consommation. Et je pense que c'est la meilleure manière de rendre à notre pays la grandeur qu'il perd malheureusement en termes de vitalité industrielle, de vitalité économique et donc, in fine, de vitalité en termes d'emploi.
On en vient donc au développement économique qui est particulièrement important en ces temps de pandémie. Alors, il y a une des mesures de la liste de Jordan Bardella, c'est le fonds annuel de 500 millions d'euros pour aider les jeunes dans la création d'entreprises. Comment fonctionnerait ce fonds annuel?
Eh bien, en fait, tout jeune qui aurait l'ambition et le projet de créer une entreprise verrait la région Île-de-France abondée au même montant de son que son investissement, avec un plafond bien sûr à 5 000 euros. Mais par exemple, un jeune qui mettrait 3 000 euros dans la création d'une entreprise, la région abonderait à hauteur de 3 000 euros. Ça concernerait environ 100 000 créations d'entreprises. Donc je pense que c'est une très bonne proposition pour aider au dynamisme et à la création d'entreprises, notamment chez nos jeunes. Donc voilà comment les choses pourraient s'articuler.
Et par ailleurs, toujours dans le thème de l'économie, vous souhaitez lutter pour baisser la fiscalité. Pensez-vous que ce soit possible sans impacter d'autres projets soutenus par la région Île-de-France?
Bien sûr que cela est possible. Il faut bien sûr faire la chasse au gaspillage, et dans les collectivités, quelles qu'elles soient, il y a du gaspillage. Donc à partir du moment où vous réduisez vos dépenses de fonctionnement en luttant contre ce gaspillage-là, ou en réorientant peut-être aussi vos choix en termes de fonctionnement, vous dégagez des marges de manœuvre, et en dégageant ces marges de manœuvre et en rééquilibrant le budget, vous pouvez être amené, sans trop de problèmes je crois, à pouvoir réduire la fiscalité. On parlait tout à l'heure au niveau du privé des charges qui pèsent sur l'activité de nos entreprises privées. Je crois qu'on peut également faire en sorte de rendre du pouvoir d'achat aux contribuables en dégageant des marges de manœuvre, qui permettraient de réduire la fiscalité. C'est ce que nous avons fait dans la plupart de nos communes gérées par le Rassemblement national. Et je crois que ça a l'air de plutôt bien marcher, puisque dans ces communes, nos maires ont été réélus très largement à hauteur de 60-70% des votants. Donc il est possible de lutter contre le gaspillage et de rendre du pouvoir d'achat aux contribuables.
Il vous reste une minute, Laurent Morin, pour notre dernière question. Comment pouvez-vous convaincre les électeurs de voter ce dimanche 27 juin pour Jordan Bardella?
Eh bien, tout simplement en rappelant aux électeurs que cette élection est une élection à la proportionnelle. On entend souvent parler du fait qu'il faut réinstaurer la proportionnelle, notamment au niveau des élections législatives. Ici, c'est une élection régionale à la proportionnelle, ce qui veut dire que chaque voix permettra d'avoir des élus au Conseil régional d'Île-de-France. Donc nous appelons tous nos électeurs à se déplacer, à se bouger véritablement, pour soutenir le Rassemblement national, afin que nous puissions être la seule force et la première force d'opposition à Valérie Pécresse, qui sera réélue sans trop de problèmes. Elle pense faire croire aux électeurs qu'il y a un danger avec une victoire de la gauche, mais elle sera réélue, la gauche ne pourra pas gagner. Donc l'idée, c'est de renforcer la position du premier tour. Nous étions la première force d'opposition au premier tour. Il faut absolument amplifier ce phénomène pour que nous ayons le maximum d'élus au Conseil régional d'Île-de-France.
Laurent Morin, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci à vous.
On marque une pause et on revient pour la suite de cette émission. Dernier invité, Raphaël Cognet, candidat dans les Yvelines pour la liste Île-de-France Rassemblée avec Valérie Pécresse. Cette émission spéciale sera disponible juste après la fin de sa diffusion sur notre site internet bpmlaradio.com, rubrique podcast. Excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.
BPM, élection régionale 2021.
Bonsoir à tous et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Le second tour des élections régionales a lieu ce dimanche. À cette occasion, nous vous proposons depuis 18h une émission spéciale. Les candidats du second tour en Île-de-France répondent à nos questions. Et pour conclure cette émission spéciale, nous recevons Raphaël Cognet, candidat pour la liste yvelinoise Île-de-France Rassemblée avec Valérie Pécresse. Raphaël Cognet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire de Mantes-la-Jolie, également président de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Première question, Raphaël Cognet. On parle des résultats de ce premier tour. Valérie Pécresse est arrivée en tête avec 36,2% des voix. Qu'est-ce que vous inspire ce résultat?
Bon, au niveau régional, c'est un bon résultat. Évidemment, moi, j'ai regardé les scores prioritairement à Mantes-la-Jolie. Valérie Pécresse, sur la ville de Mantes-la-Jolie, fait un score de plus de 38%. Donc ça veut dire deux choses, ça veut dire qu'elle a convaincu très largement les électeurs mantais de l'utilité de sa candidature. Le fait aussi que j'ai fait sa campagne en étant avant-dernier sur sa liste a sans doute aidé, puisque je me suis engagé fortement à ses côtés, notamment à travers un courrier que j'ai fait à tous les habitants de Mantes-la-Jolie pour les inciter à voter pour Valérie Pécresse. Et puis je crois plus fondamentalement que c'est aussi le résultat d'un travail. Valérie Pécresse a vraiment fait le job depuis le début de ce mandat. Elle est venue plusieurs fois à Mantes-la-Jolie. Elle a parlé des sujets qui nous intéressent, et je crois qu'on va y revenir, mais le transport, la jeunesse, le sport, la place du monde rural. Et donc je crois qu'elle tire les bénéfices de cet investissement. Moi, je suis vraiment très très fier de la campagne qu'elle a faite, qui est une campagne compliquée, parce que on pouvait pas réunir les gens comme avant, nos repères habituels étaient un peu brouillés, mais je trouve qu'elle s'est déplacée beaucoup, qu'elle a été beaucoup à l'écoute. Moi, j'ai eu l'occasion de l'accueillir par exemple à Soindre lundi, où elle est venue soutenir des maires qui avaient été agressés par des gens du voyage ce week-end. Vous voyez, donc c'est aussi ça, Valérie Pécresse, c'est quelqu'un qui vient prendre la température et qui vient pas juste au moment des élections. Donc je crois que c'est toutes ces raisons qui font qu'elle a fait un bon score à Mantes-la-Jolie et dans le Mantois.
Ce qui est revenu lors des résultats de ce premier tour, c'est le fort taux d'abstention, 69% en Île-de-France. Comment vous expliquez ce phénomène ?
Je l'explique par différentes raisons. Le premier, si on prend les raisons conjoncturelles, c'est-à-dire les plus simples à expliquer, évidemment, la crise Covid ne nous a pas aidés, puisqu'il y a une angoisse d'un certain nombre d'électeurs à aller voter. Hein. On le sait, on l'avait vu au municipal, et même si là les choses vont mieux, c'est un fait. Deuxième chose, la difficulté de faire campagne. Quand vous pouvez pas réunir les gens, quand vous pouvez pas faire de réunion d'appartement. Nous, notre marque de fabrique ici, c'est la proximité. Aux élections municipales, j'ai fait 45 réunions d'appartement. Là, j'ai pas pu en faire. Donc, ça mobilise pas et c'est difficile de mobiliser. Donc ça, c'est pour les raisons les plus simples, mais je crois qu'on peut pas éluder collectivement le fait qu'il y a un certain nombre de gens qui pensent objectivement que la politique ne sert absolument à rien et que donc, ils prennent pas le temps d'aller voter. Ça, c'est dramatique parce que j'ai pas de réponse à ça immédiate. Moi, j'essaie de faire mon boulot de maire en étant disponible pour les habitants, en les recevant en rendez-vous, en leur montrant qu'un élu, ça change quelque chose. Et le fait de voir autant de gens s'éloigner de la politique, notamment sur les scrutins intermédiaires, c'est vraiment un grand motif d'inquiétude pour moi. Je crois qu'il y a plus que deux élections qui intéressent les gens maintenant, c'est la présidentielle et les municipales. Alors, en tant que maire, évidemment, j'en suis très heureux, mais il y a aussi beaucoup d'autres échelons intermédiaires et il va falloir qu'on se saisisse vraiment du sujet.
Si on se projette sur le second tour, est-ce que vous ne craignez pas le rassemblement de la gauche qui s'opère autour de la candidature de Julien Bayou ?
Bah, vous savez, une élection, tant qu'elle n'est pas gagnée, elle n'est pas gagnée. Donc évidemment, moi je vais faire campagne jusqu'au dernier moment. J'ai été en contact encore cette semaine avec les équipes de Valérie Pécresse pour essayer jusqu'au dernier moment de convaincre les électeurs. Donc oui, évidemment, on n'est pas inquiet, mais on fait en sorte de faire le plein de nos voix et de mobiliser. Après, je crois que quand même, Valérie Pécresse, elle a une grande force dans ce deuxième tour. C'est qu'elle a déposé exactement la même liste. Elle a fait aucune combinaison. Elle a fait aucune négociation. Il n'y a pas eu de réunion dans des parkings et dans des garages pour trouver des fusions de listes, etc., qui sont toujours des moments très compliqués. Et surtout, je crois objectivement que ces trois candidats, même s'ils disent tous de gauche, entre un socialiste modéré et la France insoumise de Clémentine Autain, il y a un tel gap. Il y a une telle différence sur les idées, les valeurs et la façon de faire de la politique que je pense pas du tout que ces listes vont faire le plein. Effectivement, quand on les additionne, elles sont encore derrière, mais elles sont à 2-3 points. Mais je crois que ces scores-là ne s'additionnent pas. Enfin, moi, je suis désolé. À la France insoumise, il y a des gens que je considère comme dangereux. Dangereux au niveau de leurs idées. Il faut quand même se souvenir que ces gens-là ont défilé dans les années qui viennent de s'écouler, notamment avec le CICF. Qui a été une association qui a été dissoute depuis. Ces gens-là ont refusé de voter le bouclier de sécurité de Valérie Pécresse à la région. Ces gens-là, quand Valérie Pécresse est arrivée à la région était dans un état lamentable. Donc je crois que honnêtement, additionner des tendances aussi diverses, sur le papier ça peut se faire. J'ai d'ailleurs vu qu'il y a des candidats qui étaient passés des Yvelines aux Hauts-de-Seine, de Hauts-de-Seine en Seine-Saint-Denis, de Seine-Saint-Denis à Paris, parce que c'est des gens qui, en fait, n'ont pas d'attache électorale. Valérie Pécresse, elle a fait une campagne fondée sur les maires. Énormément de maires dans les Yvelines, dans le Mantois, la soutiennent. Je suis sur sa liste. Sam Damergy est sur sa liste. Beaucoup de maires la soutiennent. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on sait à quel point elle peut être utile pour nos territoires.
On s'intéresse à présent au fond de la candidature. D'abord sur les transports. Ça, c'est un thème évidemment très important pour les Franciliens. Valérie Pécresse souhaite une révolution des transports en Île-de-France pour réduire les durées de déplacement, pour régler les problèmes de ponctualité. Cette révolution, elle passe par quelles mesures ?
On a en Île-de-France, et particulièrement dans le Mantois, des transports dont beaucoup sont dans un état lamentable. Et je suis bien placé pour le savoir, puisque en tant que maire, j'ai accueilli plusieurs fois Valérie Pécresse sur ce sujet à Mantes-la-Jolie et j'ai été très souvent à la gare pour discuter avec les usagers et faire part de leur, et qui m'ont fait part de leur ras-le-bol. Alors ce ras-le-bol, je le connais parce que moi, cette ligne J, je l'ai pris pendant 10 ans quand j'allais travailler à Paris. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses, même si elles s'améliorent de temps en temps, restent difficiles. Les transports, c'est très compliqué parce que quand vous décidez des travaux, les résultats se font voir des années et des années après. Et aujourd'hui, au terme d'un mandat de Valérie Pécresse, on paye encore les sous-investissements qu'il y a eu pendant une vingtaine d'années dans les trains du quotidien en Île-de-France et en France. Donc, Valérie Pécresse, ce qu'elle a fait pendant son premier mandat, c'est qu'elle a lancé un plan inédit d'investissement en partenariat avec la SNCF et avec Transilien pour s'attaquer aux lignes les plus difficiles. Donc, la révolution des transports, c'est ça, c'est déjà programmer budgétairement des travaux massifs pour faire en sorte que le matériel soit de meilleure qualité, pour faire en sorte que les aiguillages fonctionnent, que les caténaires arrêtent de sauter quand il fait chaud, quand il fait froid, quand il y a des feuilles mortes, et que, en gros, on puisse avoir du matériel fiable. Ça, c'est la première chose à faire. C'est en cours, mais ça prend du temps. On a quasiment 10 ans de travail, 5 ont déjà été faits, mais pour terminer cette révolution des transports, il faut qu'on puisse agir et que les Franciliens remettent Valérie Pécresse à la tête de la région. Nous, on a une très grosse arrivée dans ce mandat, c'est le RER E. Le RER E, il va apporter des solutions pratiques à un certain nombre de gens, notamment ceux qui vont travailler à La Défense, à Saint-Lazare, en nous rapprochant beaucoup de Paris. Mais la ligne J ne doit pas être oubliée, la ligne J est une ligne utile, et donc il faut qu'on puisse continuer à renouveler le matériel, faire des investissements massifs. La révolution des transports, c'est la priorité numéro un pour nos habitants, et je peux vous dire que j'ai eu la garantie de Valérie Pécresse que les investissements seraient faits, seraient au rendez-vous pour qu'on puisse améliorer les choses. J'ai bien conscience que ça prend du temps et franchement, j'en suis le premier désolé parce que j'aimerais bien que mes habitants puissent se déplacer de façon beaucoup plus facile. Mais vous savez, quand vous avez des trains qui roulent, vous faites pas de travaux quand vous voulez. Enfin, tout ça, c'est des gestions de planning qui sont très complexes. Mais en tout cas, moi, je mets toute mon influence dans la balance pour que les choses puissent s'améliorer parce que vraiment, la qualité de la ligne J est un sujet de préoccupation quotidien pour moi.
Vous parlez du RER E. Il y a autre chose qui est en place, qui est en train de se mettre en place. C'est le RER vélo. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs de quoi s'agit-il?
Alors le RER vélo, c'est un RER pour les vélos, jusque-là j'ai pas expliqué grand-chose, mais en gros l'idée c'est de mettre à côté des lignes de RER, des lignes dédiées pour les vélos. Des lignes dédiées, c'est-à-dire des lignes réservées aux vélos, pour que les gens puissent non pas suivre le RER en vélo, mais suivre le trajet du RER et faire à vélo ce qu'ils souhaitent faire. Le vélo... aujourd'hui, est en pleine explosion en Île-de-France. On en parle souvent à Paris, mais c'est vrai aussi dans le Mantois. C'est vrai aussi sur le territoire de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Et c'est vrai dans les villes de Petite Couronne. Pourquoi? Parce que c'est un mode de déplacement facile, écologique, plutôt agréable, parce que circuler en ville à vélo, c'est plutôt agréable, du moment qu'on a des infrastructures dédiées. Donc, l'apparition du vélo électrique a fait aussi beaucoup de bien, parce qu'on est obligé maintenant on est en capacité de franchir des plus grandes distances. Les aménagements dans les gares permettent de sécuriser les lieux où on met son vélo et de faire en sorte qu'il soit gardé dans de bonnes conditions. Donc toutes ces raisons font que le vélo est un mode de transport qui est en forte augmentation. L'idée de Valérie Pécresse, et elle ne le fait pas tout seul, elle le fait avec beaucoup d'associations et d'usagers du vélo qui sont regroupés au sein d'un collectif, c'est de permettre aux gens de circuler autour des lignes RER et d'avoir des sites dédiés pour pouvoir circuler au maximum en sécurité. Les aménagements vélos, c'est compliqué à faire. Parfois, on me demande beaucoup d'aménagements vélos en centre-ville de Mantes. Mais notre centre-ville, par exemple, est un centre-ville médiéval dans lequel c'est compliqué de faire des pistes vélos. Par contre, il y a des endroits où on peut le faire. Et donc, la présidente de région a décidé de mettre un grand coup d'accélérateur à ce plan vélo. Et je considère que c'est une excellente idée.
On passe au thème de la jeunesse et de la formation. Que faudrait-il mettre à disposition des lycéens pour les aider dans leur apprentissage et notamment en matière de numérique?
Alors, avant de vous parler du numérique, je n'élude pas votre question, mais je veux dire que un certain nombre de lycées en Île-de-France sont dans un état dramatique. Quand j'ai été élu, par exemple, le lycée Rostand n'avait pas de Wi-Fi. Le lycée Rostand avait des toilettes qui étaient dans un état lamentable. Je dis ça parce que, avant de se poser la question de savoir ce qu'on peut faire en termes de numérique, déjà commençons par avoir des lycées en bon état. Or, la compétence des travaux dans les lycées, c'est la région qui l'a. Valérie Pécresse est venue au lycée Rostand. Valérie Pécresse a engagé des investissements très importants au lycée Saint-Ex. On a encore des travaux à faire à Rostand, tout n'est pas fini. Mais déjà, le premier respect pour nos jeunes, c'est qu'ils soient dans un cadre qui leur permette d'étudier dans de bonnes conditions. Alors après, pendant le confinement, j'avais moi-même, avec Valérie Pécresse d'ailleurs à Rostand, distribué des tablettes numériques et des ordinateurs pour que les élèves puissent suivre les cours à distance. Il faut évidemment qu'on équipe nos lycées de réseaux Wi-Fi fiables et stables pour qu'ils puissent se doter des outils nécessaires. Et puis, il faut qu'on aide les étudiants qui ne peuvent pas s'équiper tout seuls en numérique. Donc, il faut agir sur les deux tableaux, des locaux agréables et aussi une capacité à travailler à distance. Pour ça, il faut du matériel. La région en a conscience. J'ai, comme je vous l'ai dit moi-même, déjà distribué un certain nombre de tablettes. Mais je crois qu'on peut évidemment faire mieux. L'idée, c'est que aucun lycéen ne décroche pour des raisons liées aux outils numériques.
On aborde à présent le développement économique. Dans le détail, si on s'intéresse à Renault-Flin, hein, qui est pas très loin d'ici, comment aider à la reconversion du site pour en faire, je cite, le plus grand site de recyclage automobile de France? Ça, c'est des propos de Valérie Pécresse.
On a ici une identité, une histoire qui est une histoire industrielle autour de la vallée de l'automobile. Donc, quand des constructeurs automobiles partent de la vallée de Seine, c'est toujours un drame. En ce qui concerne Renault, ils n'ont pas décidé de partir, ils ont décidé de changer la nature du site. Donc, il y a deux sujets. Il y a un sujet qui concerne prioritairement le département et la région, c'est la question de l'acquisition du foncier. Il faut absolument que, autour de l'usine Renault-Flin, dont le foncier est énorme, c'est-à-dire qu'en gros, il y a beaucoup, beaucoup de terrains disponibles autour de Renault, la région et le département puissent acheter le foncier nécessaire pour pouvoir accompagner des entreprises à s'implanter à ce niveau-là. Après, il y a le site de Flin en soi. Le directeur général de Renault est venu il y a quelques semaines à Aubergenville pour présenter aux élus du territoire, à Valérie Pécresse, au président du département, à moi-même et à quelques maires, le projet qu'ils ont. Le projet, c'est de, en fait, recycler les voitures, en quelque sorte. C'est-à-dire de faire, de dire une voiture qui a 100 000, 150 000 km, une fois qu'elle a 100 000 km, elle part pas à la casse, mais on change sa batterie. On change un certain nombre de pièces et elle est repartie pour 200 000 km. C'est en gros ce qu'on appelle de l'économie circulaire. On prend ce qui est ancien et on lui donne un coup de jeune. Donc Valérie Pécresse a dit qu'elle apporterait son soutien à Renault, son soutien financier, éventuellement son soutien aussi en matière de subventions. Donc les discussions vont se poursuivre au plus haut niveau, mais en tout cas j'ai senti de sa part une réelle volonté d'accompagner ce projet qui vraiment fait écho à l'histoire de la vallée de Seine. L'automobile, c'est dans notre ADN. Il faut absolument que les constructeurs automobiles restent sur le territoire, ne serait-ce que parce que nous avons dans nos quartiers et dans nos villes beaucoup d'ouvriers qui ne sont pas forcément mobiles à aller travailler ailleurs. Et donc, il faut qu'on crée aussi de l'emploi sur place.
Il nous reste deux minutes, Raphaël Cognier. Un mot concernant le sport et le tourisme, deux secteurs gravement touchés par la crise. Que faire pour les aider à se relancer?
Alors là-dessus, il y a ce qu'on va faire et puis il y a ce qui a été fait sur le tourisme. Si on a un quai croisière à Mantes-la-Jolie qui est en capacité d'accueillir des bateaux de croisière et de développer notre offre touristique, c'est parce que la région nous a très très grandement aidé à le financer. Après, ces deux secteurs qui ont beaucoup souffert pendant cette crise Covid. En ce qui concerne le sport, Valérie Pécresse a annoncé un plan sport assez conséquent pour aider les clubs et aider les villes à construire des infrastructures sportives. Donc évidemment, Mantes n'échappe pas à la règle. On a des gymnases qui sont pour la plupart plutôt vieillissants et pas forcément en très bon état. Donc on va aller chercher de l'argent à la région pour les renouveler et puis éventuellement faire plus si on le peut d'un point de vue financier. Et puis il y a aussi le soutien aux associations, le soutien en fonctionnement, parce que moi je suis très inquiet du niveau d'adhésion dans les sections et dans les associations sportives. Beaucoup d'enfants ont pris l'habitude de ne plus faire de sport et ça va être compliqué de les faire revenir au sport. Or pourtant le sport c'est évidemment un enjeu de cohésion sociale, mais c'est aussi un enjeu de santé publique. Plus on fait de sport souvent, plus on est en bonne santé. Et donc la région sera au rendez-vous pour, sur la question sportive, aider les associations. Elle sera aussi au rendez-vous au niveau touristique. Elle nous aide déjà via les infrastructures, via le financement d'un certain nombre de projets qui intéressent notre territoire, via le financement aussi des parcs régionaux. On est aux portes ici du parc naturel régional du Vexin français que la région finance aussi. Donc sur tous ces sujets, sport, tourisme, qui sont vraiment des sujets d'avenir pour notre territoire, la région a été et sera au rendez-vous. C'est pour ça que moi j'ai fait campagne pour Valérie Pécresse de toutes mes forces. Il n'y a pas que Valérie, il y a aussi, comme je l'ai dit, Sam Damergy, il y a aussi beaucoup de maires qui font campagne avec elle. Je suis certain que dimanche, les électeurs lui feront confiance, en tout cas moi je lui fais confiance, et j'incite tout le monde à faire de même, parce que au-delà de ce qu'elle promet, il y a aussi ce qu'elle a déjà fait. Valérie Pécresse est une amie du Mantois, et je souhaite que pas une voix ne lui manque dimanche soir prochain.
Raphaël Cognier, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci, et à très bientôt.
C'est la fin de cette édition spéciale. Elle sera disponible d'ici quelques instants sur notre site internet bpmlaradio.com, rubrique podcast. Excellente fin de journée à l'écoute des programmes de BPM.
BPM, élection régionale 2021.